Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Nous allons donc continuer tout notre enseignement sur l'Apocalypse et il ne nous reste que quelques séances maintenant.
Et
je vous rappelle que l'Apocalypse, eh bien, c'est l'accomplissement de toutes choses, c'est la fin des temps. C'est la révélation du royaume de Dieu. C'est ce qu'on appelle la consommation de notre salut. C'est-à-dire l'accomplissement total des promesses de Dieu pour l'humanité. Et nous savons malheureusement qu'il y a tellement de gens qui témoignent. Ils disent Jésus sauve, Jésus pardonne le péché, et ça c'est vrai. Mais vous savez, quand vous commencez à gagner des âmes pour le Seigneur, ou que vous travaillez vraiment pour l'œuvre du Seigneur en général, il y en a un qui n'est pas content. Et c'est pourquoi vous devez baser vos convictions sur ce que la parole de Dieu dit à propos de l'éternité. Vous devez être aussi capable de répondre à des questions que des païens vont vous poser ou contrecarrer l'esprit du monde et la mentalité du monde par rapport à qui est Dieu et par rapport à certaines questions que même des chrétiens peuvent se poser. Vous savez, parfois dans notre vie chrétienne, quand nous passons par des moments difficiles, il y a ce qu'on appelle des remises en question. Et des fois, dans nos têtes, il y a des questions bizarroïdes qui essayent de venir. C'est pourquoi nous devons avoir des réponses de la parole de Dieu. Ça vous est jamais, par exemple, arrivé au début de votre conversion, d'un seul coup d'entendre dans votre tête, mais est-ce que tu penses que tout ça, c'est vrai finalement? Ça vous est jamais arrivé, ça? Bien sûr, ça nous est tous arrivé. Ça s'appelle le doute, où l'ennemi essaye de venir comme ça d'un seul coup. Ou tu crois que finalement, un jour, Dieu va te ressusciter. Te ressusciter d'entre les morts.
Des
fois, vous savez, vous êtes comme ça, tranquille, parce qu'il y a des choses. Parce qu'il y a l'esprit du monde dans ce monde. Et rappelez-vous que l'esprit du monde s'oppose totalement à la connaissance de Dieu. C'est pourquoi nous devons connaître notre espérance en Christ. Et nous avons fait ce voyage, nous en sommes quasiment à la fin. Au travers justement de tout ce qu'est la fin des temps, tout ce que Dieu prophétiquement dans sa souveraineté nous a révélé dans sa parole. Nous avons vu au chapitre 1 que Dieu se révèle à Jean par une vision extraordinaire. Jésus ressuscité et glorifié. Chapitre 2 et 3, il lui donne un message aux sept églises. Puis chapitre 4, nous savons que Jean va commencer à avoir une révélation où l'église n'est plus sur la terre. Et là, nous avons vu très largement un certain nombre de doctrines indispensables pour comprendre, pour aller plus loin dans l'Apocalypse. Entre autres, l'enlèvement de l'église, donc le premier retour de Jésus. Entre autres, les 70 semaines d'année de Daniel. Et puis aussi le tribunal de Christ, là où nous serons récompensés. Parce que là, dans les derniers chapitres de l'Apocalypse, Dieu nous montre l'environnement de l'éternité. Et cet environnement, cette position dans l'environnement de l'éternité dépendra de ta récompense, c'est-à-dire ce que tu auras fait dans ton corps. Donc ce que nous recevrons au tribunal de Christ, je vous rappelle, aura une double incidence. Pour le millénium, oui. Mais aussi pour l'éternité. C'est important de comprendre que cette récompense aura deux aspects particuliers. Deux incidences, deux objectifs. Dans le règne de Christ pendant 1000 ans, mais aussi pour l'éternité. Nous avons étudié, chapitre 4, la révélation du trône de Dieu. Et nous allons y revenir d'ailleurs aussi dans la fin du chapitre 21 et au début du chapitre 22. Parce qu'on nous parle de la Jérusalem céleste, c'est ce que nous allons voir ce soir. Puis on voit qu'à partir du chapitre 5, l'agneau est digne d'ouvrir ce fameux livre où il y a les sept sceaux de la tribulation.
Tubona igice cya gatanu batwereka umwahagazi abereye kugurura udushashara tumataneje igitabo.
Et nous avons à partir du chapitre 6, on va pas revenir dessus en détail, jusqu'au chapitre 19.
Hama kuva kuri gatandatu gushika kuri 19 igice cy'19.
Tout le déroulement de la tribulation.
Turabona ingene hagenda haravugwa ibihe by'ihamwa.
Qui va durer 7 ans.
Bizomara imyaka
7. Et Dieu nous montre comment il va accélérer ses jugements plus on avance dans la tribulation.
Imana igice twereka ingene bigenda biranyaruka uko iyo myaka
ihera. Je vous montre tout ça en détail.
Ibyo byose twarege turabiraba idonido.
Les 6 premiers sauts.
Turabona udushashara dutandatu
twa mbere. Le 7e saut est ouvert.
Tukabona ingene akindwi kugurutse.
Et à ce moment-là, il va y avoir les 7 trompettes.
Kacakavamo inzamba ndwi nyene.
Les 6 premières trompettes sonnent. Ce sont des jugements divins.
Zikavuga,
et la septième trompette, à la septième trompette, il va y avoir les 7 dernières coupes de la colère de Dieu. Et puis nous avons vu au chapitre 17, 18 et 19 comment Dieu va renverser les systèmes de ce monde, c'est-à-dire Babylone la Grande, et donc la grande prostituée, c'est l'image des systèmes de ce monde.
Ingene Imana izokuraho iby'isi amasisteme y'isi ibyo bitango Babiloni ahamba igisagara gikomeye.
Et je vous rappelle, les systèmes de ce monde sont aujourd'hui gérés par le pire ennemi de Dieu, c'est-à-dire par le diable.
Ndakwibutsa rero ko ibyo tuvuga amasisteme y'isi aganjwe n'umwansi wa mbere w'Imana
wa Satan. C'est pour ça que la terre est dans un tel chaos.
Nico gituma isi mubona iri mu kajagari.
Nous avons des rivalités gigantesques pour prendre le pouvoir des nations.
Abantu baragwana kugira ngo bashobore gutwara ibihugu.
C'est le premier aspect bien évidemment des systèmes de ce monde, système politique. Les gens se battent pour cela. Ensuite, les systèmes économiques. Et là, on voit régulièrement des pays qui prospèrent, des pays qui se cassent la figure, ça monte, ça descend dans tous les sens.
La
montée de certaines nations, la descente d'autres.
Il
y en a qui, d'un seul coup, pendant certains siècles de l'histoire de l'humanité, sont les premières nations du monde. Par exemple, l'Égypte, à l'époque de Joseph, c'était la première nation du monde. Donc on voit les nations monter et descendre. Mais aussi on voit les systèmes sociaux de ce monde. L'injustice. Donc on voit tout cela, ça fait partie des mauvais systèmes de ce monde.
De
la mauvaise gestion des systèmes de ce monde. Et nous savons qu'à la fin de la tribulation. Jésus va venir, il écrase l'Antichrist, nous avons étudié tout cela. Nous avons étudié toutes les paraboles qui concernent le deuxième retour de Christ. Israël qui est au bord du gouffre et Jésus vient sauver Israël, nous sommes avec lui. Et tout ça, nous l'avons largement étudié. Ensuite, au chapitre 20, Jésus a récupéré la gestion de sa propriété, la terre, et il va accomplir la première partie prophétique qui concernait Israël, c'est-à-dire qu'Israël va devenir la nation, la première nation du monde.
Icyo gihe acashitsa ubuvugishwa bwa mbere kuri Israël, Israël cyiki igihugu cya mbere ku isi.
Jésus règne à Jérusalem.
Yesu aze kuganza Yerusalemu.
Le diable est mis dans une prison au Tartaros, on a vu le monde invisible.
Satani afungiwe mu bihero gitwa Tartaros twarize isi impwemwe.
Il est mis hors d'état de nuire avec ses petits copains.
Akugwe ahantu ashobora kugira ico yononye n'abagenzi biwe.
Et là évidemment, Jésus nous régnons avec lui.
Icyo gihe rero abera batangura kuganzanya na
Et on a vu qu'au début du millénium, il y a des gens donc, qui se sont convertis pendant la tribulation, qui ne sont pas morts, qui sont encore dans leur corps. On a expliqué qu'au début du millénium, Dieu va faire mourir tous les inconvertis. Mais ceux qui se sont convertis pendant le millénium et qui ne sont pas convertis pendant la tribulation et qui ne sont pas morts, eux vont procréer, vont se multiplier pendant 1000 ans. Certains parmi eux vont se convertir, d'autres ne vont pas se convertir. Et c'est sur ces nations-là que nous allons régner. Tout dépendra de la position que vous aurez selon votre récompense. Ensuite, nous savons qu'il y a une dernière petite rébellion à la fin du millénium où Satan est relâché pour peu de temps. Il séduit une dernière fois des inconvertis. Parce que pendant le millénium, nous avons vu qu'il y a des gens, la connaissance de Dieu sera sur toute la terre, mais il y a des gens qui accepteront le règne de Jésus, mais par force. Donc, c'est sur eux que, en fait, nous pèterons les nations avec une verge de fer.
Donc,
il faut bien comprendre ces expressions-là. Ça veut dire que quand quelqu'un qui sera dans le règne du millénium de Christ,
qui
sera dans son corps mortel, nous n'aurons plus ce problème-là du tout, désobéira aux lois divines sur la terre, il sera sanctionné, il sera puni. Donc nous savons qu'il y aura eu la longévité, hein, les gens qui mourront à 100 ans mourront jeunes. Nous avons étudié tout ça. Toutes les richesses de ce monde seront bien partagées. Vous aurez plus de scandales miniers.
Ou
des gens qui utilisent des richesses de ce monde comme le pétrole pour aller faire la persécution contre les chrétiens. Alors que c'est Dieu qui a mis ses richesses dans le monde, dans la terre. C'est tout le scandale, le plus grand hold-up de l'histoire de l'humanité que nous vivons aujourd'hui. C'est pour ça que nous devons comprendre ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de construire le royaume éternel de Dieu. Alors, nous avions commencé à voir à la fin, donc nous avons vu le jugement dernier, nous avons bien étudié cela. Et puis, à la fin, donc quand Dieu va, je vous rappelle, détruire l'enfer et la finalité du diable et aussi de ceux qui seront ressuscités pour la deuxième résurrection. Ce sera donc la deuxième mort, la seconde mort, la mort éternelle. Donc, deuxième résurrection, c'est la résurrection des injustes. Et tous les péchés qui ont été commis dans ce monde seront jugés, je vous rappelle. Sauf ceux qui ont été pardonnés par Christ pour nous. Mais tous ceux qui n'ont pas connu Jésus, il y aura des livres ouverts, ils auront le film de leur vie devant leurs yeux. Et ils seront condamnés pour ce qu'ils auront fait. Et je vous rappelle que le péché qui sera reproché à tous les êtres humains pendant la deuxième résurrection sera le refus d'avoir cherché Dieu et accepté Jésus comme sauveur personnel. Chaque être humain a le choix. Et il doit chercher la face de Dieu. Et je vous rappelle que dans l'histoire de l'humanité, nous avons plein d'exemples dans l'Ancien Testament. Abraham était par exemple d'une famille qui était de sorciers.
mw'isezerano rya kera Aburahamu yava mu muryango w'abapfumu
et il a cherché Dieu.
Ariko yarondeye Imana.
Donc la soif de Dieu.
Urumva kurondera Imana.
Est quelque chose qui doit être dans tout homme.
Ni kintu kikwiye kuba mu muntu.
Parce que nous avons été créés pour vivre avec Dieu.
Kubera ko twaremwe ngo tubane n'Imana.
Donc tout cela c'est très clair.
Ibi byose rero biratomoye.
Les gens vont être condamnés et mis dans le lac de feu et de soufre.
Abantu bazocibwa imanza bateregwe mu kiyaga cy'ibizuku n'umuriro.
C'est ce qui est réservé à ceux qui ressusciteront pour la deuxième résurrection.
Ibyo ni byo abazozuka mwizuka rya kabiri bazoba.
La résurrection des injustes.
Ukuzuka kw'abagabo.
Alors nous avions commencé le chapitre 21. Et nous avons remarqué que, en fait, les deux derniers chapitres qui vont clôturer l'Apocalypse vont nous amener dans l'éternité. Et ça, c'est formidable.
C'est
votre espérance vivante, c'est ça, frères et sœurs. Notre espérance vivante n'est pas d'aller au ciel. Le ciel n'est pas un endroit définitif où nous resterons pour l'éternité. Parce que souvent, c'est ce que nous prêchons. Nous disons, voilà, gloire à Dieu. Repends-toi de tes péchés, accepte Jésus et tu iras au ciel. Oui, le ciel, c'est merveilleux. Mais ce n'est pas la finalité de l'éternité. Ce n'est pas la finalité de l'éternité, frère. La finalité de l'éternité, c'est que Dieu soit tout en tous. Qu'on soit dans un environnement parfaitement recréé par Dieu. Immaculé, c'est-à-dire où il n'y a pas une seule trace du péché. Et nous vivrons avec lui. Nous régnerons avec lui. Et vous savez, quand on parle du mot règne, on a toujours cette connotation négative de quelqu'un qui impose et qui contraint l'autre à faire ce qu'il veut faire. C'est là où nous allons découvrir la guérison des nations. Le plan d'éternité extraordinaire divin. C'est ce que ces chapitres nous font découvrir. On va, pour réintroduire le sujet, lire Romains 8, verset 18, je crois. Ça, c'est juste pour nous rappeler quelque chose. Romains 8, 18. Romains 8, 18 nous dit, c'est trop beau ça. Vous savez, il y a des versets sur lesquels il va falloir que vous passiez du temps. Ça va amener sur vous la présence de Dieu et surtout la dimension de l'éternité. Quand tu as de plus en plus la dimension de l'éternité dans ta vie, tu es prêt à mettre ta vie totalement sur l'autel en disant, Seigneur, fais ce que tu veux de moi. Je te rappelle une chose, si tu as un appel pour servir Dieu, Dieu utilise seulement des sacrifices complets, des gens qui donnent vraiment toute leur vie. Dieu envoie le feu du ciel, c'est-à-dire l'onction, sur ceux qui se donnent complètement à Dieu. Dieu ne peut pas utiliser les personnes qui veulent donner juste un petit morceau et dire au Seigneur, tout le reste, je le garde secrètement pour moi-même. Je vais vous dire un grand secret. J'ai essayé pendant bien des années et j'ai vu que ça ne marchait pas. C'est le jour où vraiment tu mets ta vie au pied du Seigneur. Ou c'est là où il peut commencer à dire, maintenant, tu peux commencer à être utilisable. Paul dira, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées, regardez bien, à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. La gloire à venir qui est réservée pour toi, mon frère, ma
sœur,
elle est dans ces passages d'Apocalypse 21 et 22. Dieu nous montre des choses extraordinaires où il faut passer du temps et comprendre à la lumière de pas mal de passages bibliques.
Tout.
Parce que Dieu nous a réservé son héritage.
Et
encore faut-il comprendre quel est son héritage.
Donc
nous avions vu les premiers versets.
Du verset 1 au
verset 8. Et Jean reçoit cette révélation qu'il va y avoir un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et en regardant ces versets, nous savons que ce n'est pas une révélation nouvelle du Nouveau Testament. Parce que nous savons qu'Ésaïe avait vu et eu la révélation. Nouveau ciel, nouvelle terre. Et c'est ce que vraiment Ésaïe avait reçu à plusieurs reprises dans son livre. Nous l'avons vu dans Ésaïe 65 et 66. Pierre aussi nous parle qu'il va y avoir une nouvelle terre.
Nouveau
ciel aussi, oui. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est que malheureusement, souvent les gens pensent que tout va être détruit et Dieu va tout refaire.
Et je vous ai montré
la dernière fois que ce terme nouveau dans le grec implique un renouvellement. Non pas quelque chose qui n'a jamais existé, qui d'un seul coup est tout à fait nouveau, c'est-à-dire par exemple comme les téléphones portables depuis les années
90.
Je vous ai donné plusieurs exemples. Et là, le terme qui est utilisé, c'est vraiment renouvellement, restauration. Dieu n'a pas oublié son plan originel. Il a créé l'homme pour le mettre sur sa propriété. Sa propriété a été souillée par le péché. Sa création a été souillée parce que la création s'est soumise à la seigneurie de Satan. Et tout a été souillé et le plan pour un temps originel de Dieu a été mis de côté. Mais Dieu n'a pas oublié son plan originel. Ce qu'il voulait faire avec Adam et Ève, c'est-à-dire mettre son royaume ici sur la terre, il va le faire. Il va le faire. C'est pour ça que la Bible nous parle de nouveaux cieux, nouvelle terre, renouvellement.
Et
on a un certain nombre d'informations dans la parole ici, dans ce passage. Et nous avons commencé à étudier. Nous avons remarqué d'abord que 1 Corinthiens 15 nous parle que Dieu sera tout en tous. Ça, c'est très important. On voit au verset 3 ici du chapitre 21 cette nouvelle Jérusalem. Là encore, ce n'est pas quelque chose de tout à fait nouveau. Ce n'est pas une révélation que Jean va recevoir que d'autres personnes n'ont pas reçue. Parce que nous avons vu qu'il y a certains passages. Par exemple, dans Hébreux 12, où il est parlé de la Jérusalem céleste. Il y a d'autres passages où on en parle encore. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est une révélation qui arrive comme ça en disant « Mais Jean a vu... la Nouvelle Jérusalem, c'est quoi? On n'a jamais entendu parler de
ça. »
Là, la Bible nous parle, au verset 3, j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes qui habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Donc Dieu promet d'habiter au milieu de son peuple. Dieu lui-même. Imaginez-vous si Dieu habitait ici à Bujumbura. C'est très inimaginable actuellement pour nous. On a du mal à s'imaginer que Dieu peut habiter, son trône peut être quelque part sur la terre.
Et bien,
ce sera le cas, le Créateur des cieux et de la terre qui vient sur un point de sa création pour y demeurer.
Niko bizomera umuremyi w'amajuru n'isi azoza ahantu ngaha ku isi ahabe.
Et c'est ce qui se produira, frères et sœurs.
Ça va être
la révélation de l'éternité.
La Bible
nous parle au verset 4 qu'il n'y aura plus de douleur, plus de tristesse, plus rien. Pourquoi ? Parce que l'environnement, je vous ai dit, Dieu va recréer la surface de la terre. Nous l'avons vu dans 2 Pierre, comment il va faire ça. Le premier ciel et le deuxième ciel vont être aussi transformés. Nous allons voir qu'il y a des choses dont la Bible nous parle à propos du soleil.
Il
y a certaines choses qui vont être étonnantes pour nous, dont nous avons très peu de descriptions. Mais il y a des choses qui vont changer, des choses que nous verrons de la terre qui ne seront plus les mêmes quand nous lèverons les yeux. Donc Dieu promet que pour ceux qui vont vaincre, il y aura un héritage. Et nous avons vu plein de passages quand Jésus donne ce message aux sept églises à propos des vainqueurs. Mais Dieu prévient encore et il y a encore dire que ceux qui marchent dans le péché, qui ne le connaissent pas, n'iront pas dans la vie éternelle.
Ariko Imana igatomora neza ngo abagendera mu byaha ngo ntibazobona ubwami buzokwamaho.
Alors nous allons continuer à partir du verset 9.
Ku murongo w'icenda
jusqu'au verset 27 et nous allons commenter tout cela.
Gushika murongo 27 turagerageza kubisobanura.
Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes. Je vous rappelle que ce sont les sept coupes de la colère de Dieu dont Jean a eu la révélation, remplie des sept derniers fléaux vins, juste avant de reprendre la gestion de sa propriété, je vous le rappelle, à la fin de la tribulation. Il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Verset 10, « Il me transporta en esprit. » Là encore, Jean va être transporté. Vous vous rappelez, je vous expliquais à propos des visions, être transporté dans l'esprit, ravi en esprit, tout ça. Ça a plus de grands mystères pour vous. « Sur une grande, regardez bien, et haute montagne. » Donc là, on voit montagne. « Et il me montra la ville sainte. » Donc montagne, ville. « Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. » Verset 11, « Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, une pierre de jaspe transparente comme du cristal. » Verset 12, « Elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes, et sur ces portes, 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. » Verset 13, « À l'orient, c'est-à-dire à l'est, 3 portes, au nord, 3 portes, au midi, c'est-à-dire au sud, 3 portes, et à l'occident, c'est-à-dire à l'ouest, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. » Verset 15, « Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec un roseau, et il trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. » Verset 17, « Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. » Verset 18, « La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses, de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude. » Le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Verset 21, les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau en est son flambeau. Les nations, regardez bien, les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Revenons ici, revenons au verset 24, excusez-moi. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Regardez bien ce verset, on va le commenter après. Verset 25, ces portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. Pas de jour, pas de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Verset 27, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Et il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Nous avons vu ce que c'était. On va juste lire les premiers versets, versets 1, 2 et 3 du chapitre 22. Puis un des sept anges qui tenait cette coupe remplie des sept derniers fléaux vint et m'adressa la parole en disant, viens, non, chapitre 22, versets 1, 2 et 3, merci. Il me montra un fleuve d'eau de la vie. Regardez bien, fleuve d'eau de la vie. On parle du ciel, encore la révélation du ciel. Limpide comme du cristal, qui sortait d'où ? Du trône de Dieu et de l'agneau. Verset 22, au milieu de la place, il y a une place dans cette ville. Sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles, regardez bien, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera la ville, et ses serviteurs le serviront et verront sa face. Alors, quand nous voyons toute cette description, il y a vraiment des choses extrêmement intéressantes. Et franchement, Jean nous donne une description absolument merveilleuse. Dans lesquelles il y a un certain nombre, je dirais, d'éléments qui sont très importants et qui peuvent mieux nous faire comprendre les choses. Donc il va nous parler d'une ville, la Jérusalem céleste. Il va nous parler des fondements, des portes. Il va nous parler de tout un tas de choses. Comment est faite cette ville? Qu'est-ce qu'il y a dedans? On nous parle de nations. On nous parle d'une montagne. On nous parle d'un fleuve. On nous parle d'un arbre de vie. On nous parle de gloire que les nations apportent à Dieu. Nous sommes sur la terre qui a été complètement recréée dans sa surface. Il y a donc des peuples. Il y a des rois sur ces peuples. C'est bien ce qu'on a lu, vous êtes d'accord? Il y a un arbre de vie qui sert à la guérison des nations.
Et
il n'y a plus du tout de personnes qui ont vécu dans le péché, n'ont jamais connu Jésus, ça n'existe plus sur la terre.
Et
il y a seulement nous les rachetés, dans notre corps ressuscité et glorifié, c'est-à-dire avec nos récompenses. Il y a une ville qui est la Jérusalem céleste, qui sera la capitale du monde, où là où Dieu résidera, avec son trône, et nous viendrons l'adorer et lui apporter la gloire. Mais il y a une organisation divine. En fait, il y aura un gouvernement mondial divin, une réelle théocratie où c'est Dieu qui régnera, où il n'y aura rien qui concernera le péché, aucune désobéissance possible, et où la gloire de Dieu sera pleinement, totalement, complètement révélée. Et c'est très difficile pour nous à imaginer cela. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans des systèmes de ce monde, avec des bagarres partout, des guerres, des injustices, des gens qui, quand ils ont une position de domination sur les autres, il y a des histoires, la corruption. Donc, pour nous, dans nos petites têtes, c'est difficile à imaginer ce monde. Pourtant, Dieu nous le décrit dans ce passage. Donc, sachez une chose, notre délivrance totale du monde et de la corruption du monde sera là. Dans cet environnement absolument, absolument extraordinaire. Le bonheur parfait pour tous. Personne ne se fera des histoires. Il
n'y
aura pas une trace de mort. Rien ne sera touché par la corruption du péché. Je vous dis, c'est tellement difficile pour nous de comprendre ça. Parce que partout où nous sommes, Depuis que nous sommes nés sur cette terre, nous avons la connaissance des sens, des
cinq sens.
Et constamment, nous avons vu une seule chose devant nous, sans nous en apercevoir. Jusqu'au jour où nous avons commencé à donner notre vie au Seigneur, nous avons marché avec le Seigneur, sans réaliser toute la corruption du péché. Le péché détruit et empêche la gloire de Dieu. Il y avait la gloire sur Adam et Ève. La vie de Dieu sur eux. Et le péché a tout détruit. A détruit l'environnement dans lequel ils vivaient. A détruit leur vie. A détruit leur corps. A détruit ce que Dieu voulait faire au travers d'eux. Et a mis toute la terre, toute la création divine, sous la domination du péché. C'est difficile pour nous d'arriver à imaginer un monde, un environnement qui n'a pas été touché par le péché. C'est quelque chose qui est très difficile à concevoir en nous. Justement parce que nous avons été trempés dans cet environnement de la corruption du péché. Donc c'est pour ça que c'est très difficile. Parfois, quand nous avons des descriptions comme ça, dans nos têtes, de un peu s'imaginer ce que c'est. Et c'est normal et Dieu le sait. Tous ceux qui ont fait ces expériences d'être ravis en esprit, qui ont vu la gloire du trône, qui ont vu ce que Jean a vu au chapitre 4 que nous avons étudié, les chérubins, les 24 anciens, ce qu'est la Jérusalem céleste, ils ont raconté leurs expériences, ils disaient: c'est tellement beau, c'est tellement difficile à décrire, tellement c'est extraordinaire. Et ils n'ont pas encore vu comment la Jérusalem descendra du ciel pour être sur la terre avec le trône de Dieu. Ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Tellement difficile pour nous à imaginer. Le trône de Dieu aujourd'hui est au troisième ciel. Mais là, il viendra sur la terre. Mais la gloire de Dieu ne peut pas descendre sur la terre dans sa plénitude, comme ce sera le cas à ce moment-là. Tant qu'il y a une trace de corruption du péché sur la terre. Parce que quand la gloire de Dieu se manifeste, tout ce qui a été détruit par le péché ne peut pas le supporter. Parce que Dieu est un Dieu trois fois saint, rempli de gloire, et rien de ce qui peut être un temps soit peu souillé par le péché, ne peut s'approcher de la gloire de Dieu. Parce que ça éclate, ça est détruit à ce moment-là. C'est pour cela que Dieu va être obligé de recréer la surface de la terre. D'un environnement où il n'y aura plus aucune trace de ce qui s'est passé sur cette terre. Il n'y aura pas une feuille qui aura une trace de mort.
Une feuille d'un arbre.
Vous paraîtrez tellement jeune. Tellement glorieux. Tellement rempli de sa gloire. Vous serez tellement, nous serons tellement heureux. Dans un bonheur, mais tu as pu goûter peut-être un peu de gloire.
Kumbure, uramaze kuba mu bunini hazwa bukenya cyangwa
ubwiza bw'Imana. Et vous savez, quand Dieu vient dans un endroit où il y a un être humain.
Iyo ubwiza bw'Imana bumanutse ahantu
harabantu. Et il y a tout petit peu une goutte de puissance de sa gloire.
Hakabana gatonya akama kubwiza bw'Imana akamanutse aho hantu.
Les gens sont touchés, ils tremblent dans tous les sens, ils sont
Umuntu usanga ajugumira hinda gashitsi kubera ubwiza bw'Imana buraho.
Mais là, ce sera la plénitude de sa gloire.
Ariko yumvire ntazobara kama bizoba byuzuye.
Ça sera quelque chose d'absolument extraordinaire. Même les plus belles expériences que tu as pu faire avec Dieu ne sont qu'un atome dans l'océan de gloire dans lequel nous serons trempés. Et la bonne nouvelle, c'est que cet océan de gloire ne s'arrêtera jamais. C'est difficile à imaginer. Oui, mais moi, pasteur, tu sais, en ce moment, j'ai mes petits problèmes. Regarde à la gloire qui t'est réservée. Ça va te donner une foi gigantesque par rapport à tes petits problèmes. Tu fais de l'humour, pasteur. C'est pas des petits problèmes, c'est des gros problèmes. Regarde à la gloire qui t'est réservée, mon frère, ma
soeur.
Et je te garantis, la foi va se lever en toi.
Tu
vas trouver des solutions divines.
Une façon
extraordinaire. Avec sa gloire. Si tu comprends. Je vous assure, c'est tellement important de méditer sur les choses glorieuses de l'éternité. C'est quelque chose qui vous aidera énormément. Jean ici reçoit cette vision de cet ange qui vient et qui lui dit je vais te montrer au verset 9, je vais te montrer l'épouse, la femme de l'agneau. Donc il le transporte en esprit sur une grande et haute montagne. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit la Jérusalem céleste. Il voit la gloire du trône de Dieu qui va descendre sur la terre. Verset 11, elle avait la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à une pierre précieuse de jaspe transparent comme du cristal. Si vous regardez Apocalypse 4:2, où on a la description de la gloire et du trône de Dieu, il est dit donc, aussitôt je fus ravi en esprit, voici il y avait un trône dans le ciel, et ce trône, sur ce trône quelqu'un était assis. Je vous rappelle, nous avons étudié ces passages, verset 3. Celui qui était assis avait l'aspect de quoi? D'une pierre de jaspe. Vous voyez, le même éclat, toute la ville aura l'éclat de Dieu, ni plus ni moins.
C'est
la pierre de jaspe, c'est rouge foncé. Et Jean va continuer au verset 12 et il va donner une description de cette Jérusalem céleste, cette ville où Jésus nous a préparé une place. Et on va regarder un petit peu les caractéristiques de cette ville. Au verset 12 et au verset 13, il va nous parler de 12 portes. Une grande muraille. Il y a 12 anges, il est dit, sur ces portes. Et qu'est-ce qu'il est inscrit? Les 12 tribus d'Israël. Vous savez, Dieu n'a jamais oublié une chose. Et Jésus le dira dans Jean chapitre 4, verset 22. Il ne faut jamais oublier une chose. Dans Jean 4, 22, Jésus va déclarer la chose suivante. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il parlait à la Samaritaine. Nous adorons, nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Regardez bien, car le salut vient des Juifs.
mwebwe musenga ico mutazi tweho dusenga ico tuzi kuko agakiza gaturuka mu bayuda
malgré toute la désobéissance
nubwo bagambaraye
du peuple d'Israël
nubwo bagiye bagarariza
Dieu a mis une marque éternelle sur ce peuple
Imana hariho ikimenyetso kizokwamaho yashize kuri bajya
Et je vous ai montré qu'il y a vraiment deux travers à propos de comment les chrétiens considèrent Israël.
Kunze kubereka ukugene abakristo bafata Israël hariho indenza rugero zibiri.
Il y en a certains qui disent de toute façon Israël, ils ont désobéi, ça a été le peuple qui a rejeté le Messie. De toute façon, on s'en fout.
Harabavuga ngo Israël yaragambaraye, barataye Messia, ntibigeze bamwakira, ntacho bakivuze.
Et il y en a d'autres, c'est complètement le contraire. Ils sont là, ce sont des fanatiques d'Israël. Et alors quand ils voient un juif, ils savent qu'un juif qui a reçu le Seigneur Jésus, c'est un juif super sauvé.
Parce que
non seulement c'est un juif, donc descendant d'Abraham, mais encore en plus, il a Jésus dans son cœur. Alors il y a des églises, vous savez, ils prennent des petits drapeaux, ils prennent la musique d'Israël, il y a tout un truc pro-Israël.
Et
alors on est vraiment, c'est comme si on était dans l'Ancien Testament. Quoi. Non, nous sommes dans la grâce, mais Dieu a fait des promesses à quelqu'un. Et c'est indélébile. Dans l'histoire de l'humanité. Regardons dans Genèse 22,
verset 15
à 18. Genèse 22, 15 à 18. Parce que les portes là, il y a quelque chose de spécial. Dieu lui dit de toute façon qu'il aura à la fois une postérité comme le sable. Et puis, Genèse chapitre 15, verset
5,
il lui parle des étoiles. En fait, c'est 13-16, excusez-moi, c'est 13-16 et c'est 15-5. Voilà, 13-16 et 15-5.
Verset 5.
Voilà, on va y arriver. Alors, non, c'est pas ça. Décidément. 13-16, pardon. Voilà, c'est ça, 16, excusez-moi. 13-16, voilà. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Ça, c'est Israël terrestre.
Il
y a la terre, postérité d'Abraham, physique. Maintenant, Genèse 15, verset 5. Là, il va lui donner la postérité quoi ? La postérité céleste, l'Église. Il lui dit, après l'avoir conduit dehors, il lui dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter, et lui dit, telle sera ta postérité.
Amusohokana hanze aramubwira ati rangamiza urabe mu ijuru uharuni inyenyeri namba washobora kuziharura urubyaro rwawe niko ruzongana.
Donc c'est la double promesse.
Urumva rero ni amasezerano abiri ni isezerano rimwe ririmo abiri
que Dieu avait donné à Abraham.
Imana yahaye Abraham.
Première promesse, le sable que tu ne peux compter, c'est Israël terrestre.
Isezerano rya mbere nuko hari umusenya adashobora guharura iyo ni Israël mu buryo bwo hasi Israël mu ruvyaro rwe rw'umubiri
deuxième promesse qu'il lui fait regarde là-haut regarde vers les étoiles du ciel
isezerano rya kabiri amusohokana hanze aramubwira ati rangamiza urabe mu ijuru
et qu'est-ce qui va se passer
haruri inyenyeri
eh bien telle sera ta descendance
ngo nimba ushobora guziharura ngo uruvyaro rwawe nako niko ruzongana
alors il y a aussi une promesse que Dieu a faite à David et à sa descendance dans 2 Samuel 7
dusomye muri Samuel wa kabiri igice cindwi
2 Samuel
Samuel wa kabiri
chapitre 7
igice cindwi
verset 13
umurongo w'13
verset 16 aussi
Et
en fait, Dieu va lui faire une promesse à David. Que au travers de sa descendance, il y aurait donc un roi pour l'éternité. Alors, là, David voulait construire le temple de Dieu, hein, construire une maison pour Dieu, un temple pour adorer Dieu. Et Dieu lui a dit, c'est pas toi qui vas faire ça. Ce sera lui, c'est-à-dire ton héritier, ça va être Salomon, bien sûr, qui bâtira une maison à mon nom. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Verset 14, on va lire jusqu'au verset 19, vous allez voir. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Verset 15, mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Verset 16, ta maison, regardez bien, ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Verset 17, Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Verset 18, et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, qui suis-je, Seigneur Éternel, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur Éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir. Regardez bien, et tu daignes instruire un homme de ces choses, Seigneur Éternel. Donc David avait reçu la promesse que par sa descendance, il y aurait un roi éternel. C'est-à-dire qu'au travers de la descendance de David, il va y avoir un règne éternel. Et ça va exactement s'accomplir dans l'éternité.
Vous
voyez, donc Israël a reçu des promesses pour le millénium en tant que nation dans les systèmes de ce monde actuel.
Israël a reçu des promesses.
Et on le voit très bien dans les petits prophètes et dans les grands prophètes à plusieurs reprises. Donc quand vous lisez les petits prophètes ou les grands prophètes, regardez bien, je vous conseille très fortement d'ailleurs à ce sujet d'acquérir une Bible avec les commentaires Scofield, parce qu'il y a pas mal de commentaires dans ce domaine-là où on parle du royaume messianique.
Mais
il y a aussi, parce que le salut vient des Juifs, parce que Dieu a trouvé quelqu'un au début de l'histoire de l'humanité qui va avoir la foi et qui va lui être obéissant. Il va lui faire des promesses. Et il va y avoir une descendance qui va régner éternellement. Et ça va se réaliser au travers, bien sûr, de Jésus. Et vous voyez, quand Dieu a parlé, Dieu n'a pas renié, malgré la désobéissance d'Israël. Dieu ne revient pas sur ses promesses. Donc, c'est clair que les 12 portes, versets 12 et 13 d'Apocalypse 21, il y a les 12 tribus d'Israël. Il y a l'empreinte du peuple d'Israël par lequel le Messie est venu. Le peuple qui avait la promesse. Qui a désobéi, c'est vrai. Qui n'a pas su garder la connaissance de Dieu et qui n'a pas su étendre cette connaissance. Et Dieu a dû ouvrir la porte de la grâce aux païens, alors que la connaissance de Dieu aurait dû se perpétrer au travers et se transmettre au travers du peuple d'Israël directement. Alors, verset 14, il est dit, la muraille de la ville avait 12 fondements et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Alors, au chapitre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 20, nous dit clairement la chose suivante. Regardez bien, il est dit, vous avez été édifiés sur le fondement, les fondations des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire.
Kuko mwubatswe kumabuye yitanguriro ariyo ntumwa nabavugishwa n'Imana Kristo Yesu ari we buye rigumya imfuruka.
Rappelez-vous que Jésus au départ avait choisi 12 personnes.
Mwibuke ko Yesu mu ntango yatoranije abantu 12.
Pour qu'elles soient les fondations.
Kugira ngo babe umushinge
de la prédication de l'évangile et de l'église de Dieu.
Wo kuvuga ubutumwa no kubaka ishengero ry'Imana.
Maintenant nous savons qu'il y a un de ces appelés qui n'a pas duré très longtemps, il s'appelle Judas, nous le savons.
Turazi ko hari umwe muri bajya atabandanije umuhamagaro wewe ni Yuda turabizi.
Et je peux vous garantir une chose.
Icyo nubabwira ni kimwe.
Il y a le nom des 11.
Hariho amazina y'abajya 11 basigaye.
Parmi les 12 que Jésus avait choisi, les 12 disciples.
Muri bamwe 12 Yesu yari yatoye.
Donc Pierre, Jacques, Jean, etc.
Petero, Yohana, Yakobo n'abandi n'abandi.
Mais le 12e sur la Jérusalem céleste, il n'y a pas marqué Judas avec un S.
Ariko sinibaza ko ugira 12 muri Yerusalem yera yo bari Yuda.
Il n'y a pas Judas.
Yuda sinibaza ko arimo nta urimo.
Parce que s'il y avait Judas sur un des fond, des 12 fondements de la Jérusalem céleste.
Kuko Yuda hamwe yo ba ari muri kimwe muri ayo muri zo fatiro za Yerusalem yera.
Ça serait très bizarre.
Je vais revenir bitumvikana.
Alors la Bible nous parle des 12 apôtres de l'agneau. Nous savons, nous en avions déjà parlé, que les apôtres, enfin les disciples à l'époque, et quand ils sont devenus, juste avant de devenir apôtres, dans Acte 1, ont essayé de choisir un 12e pour remplacer Judas, je vous le rappelle. Ils ont fait un choix humain. Ils ont tiré au sort Matthias. Vous vous rappelez de ce passage, on l'avait étudié. Et nous savons que Matthias n'a jamais été un apôtre. C'était un choix humain. Et dans les choix humains, il ne peut pas y avoir d'onction. Matthias n'a jamais été apôtre. À l'époque, il ne savait pas encore comment fonctionnait vraiment le royaume de Dieu. Ils essayaient un petit peu de se débrouiller comme ils pouvaient. Alors, le 12e nom qui est certainement inscrit, c'est certainement Paul. Il y a des témoignages où des serviteurs de Dieu ont vu le ciel. Et j'en ai lu un particulièrement qui est quelqu'un de, je dirais, quelqu'un de très très recommandable.
Il a
posé cette question, mais rappelez-vous, nous ne pouvons pas faire une doctrine sur un témoignage.
Mais
ce frère a posé la question au Seigneur. Et à l'ange qui l'accompagnait. Et effectivement, il aurait vu le nom de Paul.
Ce
qui semble tout à fait plausible. Parce que finalement, Paul est celui qui a écrit quand même la moitié du Nouveau Testament. Qui a reçu le mystère de l'Église, je vous rappelle dans Éphésiens 3, c'est des choses que nous avions déjà vues. Donc il semblerait que les noms des 12 apôtres de l'agneau comportent à la place de Judas le nom de Paul. Si vous n'en êtes pas convaincu, ce n'est pas grave. Quand on sera au ciel et quand on sera dans la Jérusalem céleste, vous viendrez avec moi, je vous prendrai par la main et je vous montrerai qui a marqué P-A-U-L sur le 12e fondement. Alors, ensuite au verset 15, il est dit « Celui qui me parlait, c'est-à-dire l'ange, avait pour mesure un roseau d'or. Afin donc de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. Alors tout ce que vous verrez dans la description de la Jérusalem céleste, ça s'appelle de l'or, des pierres précieuses, enfin des choses qui coûtent extrêmement cher. Soyons bien clairs, Vous savez, quand les prédicateurs prêchent la pauvreté, c'est vraiment misérable.
Il
y a vraiment des gens, quand ils vont être au ciel, ils vont dire, « Seigneur, qu'est-ce que j'ai prêché comme bêtise ?» Tout est rempli de la gloire de Dieu dans le ciel.
Même
ce qu'il faut pour mesurer, c'est en or. Les portes, ce sont des perles, comme nous allons voir, mesdames. Des perles comme vous ne pourrez jamais vous offrir, même si vous travaillez toute votre vie. Les fondations sont des pierres précieuses. Tout est absolument incroyablement ultra super riche. Parce que dans le ciel et maintenant la Jérusalem céleste qui se matérialisera sur la terre. C'est le reflet de la gloire de Dieu. La gloire ne peut pas être la pauvreté. Et c'est vraiment triste de voir combien des gens ont prêché la pauvreté. Quelle misère et quelle tristesse quand on voit ce qui nous est réservé. Quel dommage de voir combien même les prédicateurs sont en train de ternir l'image de Dieu. Alors qu'ils sont supposés donner la vraie image que Dieu donne dans sa parole. La gloire qui nous est réservée, c'est le verset que nous avons lu, rappelez-vous au début. La gloire qui nous est réservée. Dans le ciel, il n'y a pas de poussière. Il
n'y
a pas de choses qui sont en décomposition. Dans la gloire qui va venir sur la terre, ça sera la même chose. Ici, Jean voit prophétiquement la Jérusalem qui est au troisième ciel descendre sur la terre. Et l'ange lui montre les dimensions de cette ville. Il est dit, là, verset 16, la ville avait la forme d'un carré, sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, donc le fameux roseau en or, 12 000 stades. Sa longueur et sa largeur, sa hauteur n'étaient égales. Alors la ville seulement. Rappelez-vous que la Jérusalem céleste viendra sur la terre. Le côté de la ville.
12 000
stades, ça va faire
2220
kilomètres.
2220
kilomètres de
côté.
C'est pas mal pour une ville.
2220
km d'un côté, 2220 km. Ça fait la surface de quoi? 10 fois, 20 fois, 30 fois, 50 fois, 200 fois le Burundi? C'est énorme. 2200 km de côté.
Inchuro ngira hafa amajana ugwije Burundi uruhande.
C'est énorme. C'est une ville immense. Où il va y avoir des millions et des millions et des millions et des millions d'habitants. Mais il y aura des habitants dans la Jérusalem céleste et en dehors de la Jérusalem céleste. Des gens vont sortir et entrer de cette ville tout le temps, donner la gloire à Dieu. Mais c'est une ville énorme. Énorme. Où il y a la gloire de Dieu. La muraille, la Bible va nous dire au verset 17, elle va faire 144 coudées, ça fait 72 mètres de haut.
ngo agera urugo apima urugo rwawo rushikana amatambwe 148
72 mètres de haut
amatambwe 148 y'uburebure.
Donc une immense muraille avec des portes que nous verrons qui sont tout le temps ouvertes bien sûr.
Ibihome inzitiro ndende n'imiryango ngo izokwama yuguruye.
Vous allez me dire mais est-ce qu'on marchera à pied?
Les chrétiens
ont beaucoup de questions, vous savez. Qu'est-ce qu'on va manger?
Ça, c'est
les messieurs qui ont du coffre, qui ont un grand coffre avant.
Il
y a certaines choses que la Bible nous dit, d'autres non. Mais la Bible nous donne cette description de cette ville extraordinaire. Comment nous allons nous déplacer, ça ne doit pas être un problème pour Dieu. Tu seras dans la gloire. T'en fais pas, il n'y aura plus le soleil de l'équateur qui va chauffer ta tête sur la route.
Il n'y aura
plus d'effort. Ton corps sera léger comme une plume.
Je
vous dis, c'est tellement, tellement difficile pour nous. D'essayer même d'imaginer un peu ce que sera cette gloire. Parce que nous sommes tellement plombés, cloués ici au sol sur cette
terre.
Avec toutes les conséquences du péché. Rappelez-vous Jésus quand il est ressuscité. Il volait, non? Vers le ciel, il est revenu. Rappelez-vous dans Jean chapitre 20, Jésus, alors que les disciples étaient en train d'avoir peur parce qu'ils avaient peur des représailles du gouvernement romain et juif aussi. Dans Jean 20, ils étaient enfermés dans la maison. Et la Bible nous dit que Jésus leur apparut. Mais aussi, juste à la fin de l'évangile de Jean, quand, vous savez l'histoire avec Pierre, Pierre m'aimes-tu plus que les autres là. Jésus est en train de faire quoi? En train de manger. Donc vous mangerez. Ah, merci Seigneur. Qu'est-ce que vous êtes charnel. Vous voyez, on a du mal à comprendre et à essayer de s'imaginer. Vous savez, Adam et Ève, ils mangeaient. Lisez la Bible. Et rappelez-vous, Adam et Ève, c'était des créatures directes de Dieu. Sauf que rappelez-vous, ils ne se fatiguaient pas. Parce qu'après qu'ils aient péché, Dieu lui dit, c'est à la force de la sueur de ton front que tu vas tirer là, des substances de la terre.
Et
il dit à Ève, toi tu vas enfanter, mais maintenant ça va être dur pour toi. Rappelez-vous, nous ne pourrons plus procréer. Comment nous serons réunis? Y aura-t-il des villes? Apparemment, il y a des nations et des rois. Sur toute la surface de la terre, il va y avoir des habitants qui viendront régulièrement. Ils monteront à la Jérusalem céleste pour aller donner la gloire. C'est ce que la Bible nous dit régulièrement. Mais nous régnerons les uns sur les autres dans un amour parfait.
C'est
difficile à comprendre pour nos petites têtes. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'autorité et on parle de soumission. Et la soumission nous coûte, parce qu'on est obligé de dire « Oui, papa, oui, maman. »
Viens,
patron. Je ferai ce que vous m'avez dit, patron. Mais si j'étais moi le patron, je n'obéirais pas. C'est parce que je ne veux pas vous chassiez du coin de votre entreprise.
Vous
voyez, il y a toujours quelque part ce rapport de force aujourd'hui entre l'autorité et la soumission. Là, ça sera quelque chose de divinement naturel. De glorieusement compris par chacun d'entre nous. C'est difficile à imaginer un monde comme ça. Je vous dis, on est tellement pris par ce qui se passe autour de nous que nous sommes là et que nous sommes tout le temps en train de nous bagarrer quelque part. Les fondements, verset 19, de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses, alors que d'habitude on met les petites pierres pourries là, dont on veut se débarrasser, là, qu'on a récupérées dans le jardin. Excusez-moi, d'abord la muraille, verset 18, est construite en jaspe. La ville était d'or pur, semblable à du verre pur.
Ngurugo rwawo gubakishijwe ya CP umugwa wari zahabu ishize inkamba imeze nk'ibirahuri bishize inkamba nyene.
Oui, c'est étonnant cette description qu'il nous donne. On l'avait vu déjà au chapitre 4.
Ibitwarabibonye mu gice cy'akane barabidusubiremo ngaha.
Parce que si on regarde de l'or pur,
kuko iyo uravye izahabu ishize inkamba chanque itunganye ishitse yogeje neza.
Est-ce que l'or pur c'est transparent?
Mbega izahabu yogeje neza irabonerana?
Non.
Oh yeah.
Et là, il essaie de nous donner une description de ce qu'il voit. C'est d'or pur. Alors, il reconnaît que ça semble. C'est ça. Il cherche quelque chose qu'il a vu sur la terre, Jean. C'est ça, en quelque sorte, pour décrire ce qu'il a vu. Mais là, le problème, c'est que c'est de l'or pur. Donc, ça ressemble vraiment à l'or pur qu'on voit sur la terre, mais c'est transparent. Difficile à s'imaginer. Mais la Bible nous dit carrément que la ville était d'or pur. Qui brille de la gloire. Donc verset 19, verset 20, il nous donne toute la description de tout un tas de pierres avec tout un tas de couleurs. Là encore, toutes sortes de couleurs. Bleues, elles sont vertes, elles sont transparentes.
Urumva amabara yose ibibonerana amabara atandukanye yose baravugamo kuri 19:20.
Verset 21, les 12 portes étaient 12 perles. Imaginez-vous une perle gigantesque comme une porte avec une muraille dont on a dit de 72 mètres de haut. Alors une porte gigantesque, une perle gigantesque.
Ngo kandi birimba ku 21 uko ari 12 byari maragarita 12.
Ensuite, il dit la place de la ville était d'or pur. Là encore, comme du verre. À chaque fois, il rajoute comme du verre transparent. Et là, verset 22 jusqu'au verset 27, il nous explique comment ça marche. Après nous avoir donné les dimensions immenses de cette ville, capitale du monde, il dit, je ne vis pas de temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Verset 23, la vie n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour briller, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Parce que le soleil ne sera plus apparemment. La lune non plus. Parce que la Bible nous dit au verset 25, ces portes ne se fermeront point pendant le jour, car il n'y aura pas de nuit. Ça veut dire qu'il fera jour tout le temps. Désolé pour les gros dormeurs. Mais
ne
vous inquiétez pas, vous n'aurez plus besoin de dormir. Vous savez, il y a des gens qui sont très actifs dans la vie et qui disent, j'aimerais bien qu'il y ait 27 heures au jour. Parce que
je
n'ai pas le temps de faire tout ce que j'aimerais faire. Là, tu pourras faire beaucoup de choses sans te fatiguer. Et il n'y aura pas de nuit, il n'y aura pas de jour. ça sera tout le temps la gloire, on sera éclairé par la gloire. La Bible nous dit au verset 24, les nations marcheront à sa lumière. Donc vous voyez, il y aura bien des nations et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Les portes ne se fermeront point, c'est normal, il n'y aura pas de voleurs. Il y a encore pendant le jour, il n'y aura pas de nuit, etc. Et verset 26, on y apportera la gloire et l'honneur des nations. Donc en fait, Dieu va recréer une société avec vous et moi. Ça sera la société idéale. Parfaite avec ce peuple qui aura accepté Jésus. Qui leur a fait passer par des étapes d'abord pour récupérer sa propriété.
Puis
pour accomplir les promesses terrestres d'Israël. Millénium donc. Mais
ce
n'est pas la finalité. La finalité c'est que Dieu vienne sur sa propriété, y habite. Que nous soyons environnés de sa gloire, tout est Dieu et Dieu est tout. Il a un peuple qu'il a réparti en nations, alors je ne sais pas comment, ça ne nous est pas révélé. Il y aura peut-être ceux qui ont été très très gentils sur la terre, ceux qui ont été un peu moins gentils, et la nation de ceux qui ont été un petit peu moins gentils qui auront besoin de guérir. Je ne sais pas. J'ai aucune idée parce que Dieu ne nous dit pas comment nous serons répartis en nations. Mais ce ne sera plus tel que nous sommes aujourd'hui. Et il y aura des rois sur des peuples. Il y aura des villes. Il y aura la Jérusalem céleste qui sera la capitale de tout. Et nous viendrons tous le servir dans un environnement parfait, dans une société parfaite. Je vous promets, il n'y aura pas d'élection présidentielle. Il
n'y
aura pas d'injustice pour l'un ou l'autre qui aura fait un business et qui se le fera piquer par l'autre. Il
n'y
aura pas de pleurs. Il n'y aura pas de maladie. Il
n'y
aura pas de péché. Il
n'y
aura pas de désobéissance. Il
n'y
aura rien de rien de rien qui sera contraire à ce que Dieu veut parfaitement. Difficile à s'imaginer. La Bible nous dit au verset 27, et on va conclure avec ça aujourd'hui pour ce chapitre aussi. Il n'y aura rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau.
Donc
vous voyez, environnement parfait avec des gens parfaits. Servant un Dieu parfait. Étant dans le plan parfait de Dieu. Et pour l'éternité. C'est ce que le Seigneur nous réserve.
Frère.
Le jour où vous avez accepté Jésus comme votre sauveur personnel. L'éternité vous est réservée. Que le Seigneur vous bénisse.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.